9h, 11h. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis notre invité Michel Boujna pour son festival de Ramatuelle qui va se tenir pour de vrai et qui cet été va fêter ses 35 ans. Il y aura son portrait inattendu par Hélène, évidemment. Et puis dans les indispensables, un livre sur la fraternité et des comics qui rajeunissent les super-héros. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture qui débute par l'élection du président du syndicat national de l'édition.
Vincent Montagne a été réélu hier pour un cinquième mandat de 2 ans. Alors ce syndicat, SNE, est l'organisme qui rassemble la plupart des éditeurs français. Le président a précisé que cette année était une année exceptionnelle pour le secteur avec une croissance de 5,5% par rapport à 2018 grâce aux livres scolaires et à la bande dessinée. Mais évidemment, tout a été stoppé à cause de la crise sanitaire. Donc l'année 2020 est bien moins encourageante. Je rappelle que les éditeurs ont enregistré une baisse de 40% de leur chiffre d'affaires sur la période de mars, avril et mai. Vincent Montagne est également le président du Salon du Livre. Il annonce une refonte du Salon. Cet événement est très contesté par certains éditeurs.
Une affaire qu'on suivra évidemment. Ce week-end, une grande brocante est organisée, une brocante du vinyle.
5 disquaires organisent une grande brocante au hasard ludique dans le 18e arrondissement de Paris. Vente inédite de 6000 pièces, des disques de tous les styles, pop-rock, funk, afro, rap, électro. Alors il sera possible, écoutez bien, d'obtenir des 33 tours à 5 euros ou alors 3 euros, les 45 tours à 2 ou 1 euro, événement gratuit. Le but est très simple, redonner le sourire à tous ceux qui se sont sentis mal de musique pendant le confinement, c'est leur explication. Célébrer la musique aussi qui a été très impactée par la crise sanitaire.
Et moins joyeux, un festival annulé suite à un cas de Covid-19, c'est un festival qui se tient à Dijon.
Un événement organisé par l'Opéra de Dijon, cela s'appelle l'Ensemble des Dissonances, un festival pour soutenir la musique classique après le confinement. Il avait démarré le 17 juin avec des mesures sanitaires strictes, des représentations sans public. Sur les 1600 places de l'auditorium, seules 150 places étaient disponibles. La soprano Nathalie Dessay était présente, par exemple, et tout a été suspendu suite à la découverte d'un cas de Covid-19 au sein de l'équipe artistique. Le festival devait se terminer le 27 juin. Certains musiciens, organismes qui se mobilisent pour une reprise totale de l'activité musicale et artistique, ont été assez refroidis par cette nouvelle.
Et on le serait à moins. Bientôt un film sur le dernier road trip de Johnny Hallyday.
On a envie de faire un petit rock'n'roll,
ouais.
Non ?
La mûre.
Voilà.
On est parti.
Bah Céline va se lever, va danser.
On n'a pas de problème.
Un retour. Bah Céline, ça
Vas-y,
va
moi
pas.
J'adore Johnny. Ouais.
Allez, on continue. Un road trip qu'il a réalisé en septembre 2016 avec ses amis. Il sera donc bientôt sur grand écran avec un documentaire qui est en train d'être monté. Il est réalisé par François Godgeber. Le film devrait sortir pour Noël. Johnny Hallyday sur sa moto, sur les routes aux États-Unis. Il s'arrête dans les petits restos, les motels. Alors il voulait que ce voyage soit filmé. Vous savez, nous les voyons ces images dans le clip Mon pays, c'est l'amour. Un clip qui a été regardé plus de 19 millions de fois. Johnny Hallyday voulait que ce prochain album soit accompagné d'un film, un road trip qui a duré 12 jours entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles.
Et puis une nouvelle très attendue, un prochain tome pour Game of Thrones.
Et oui, confiné chez lui au Mexique, l'auteur George R.R. Martin a indiqué que le prochain livre donc, de la saga était bien avancé. Philippe rit, donc j'ai mal prononcé.
Non, c'était
vous
bien.
Votre accent anglais était tellement bon que vous l'avez continué sur la phrase en français.
A indiqué que le prochain livre, voilà. C'est ça. Alors, donc, de la saga était bien avancé. Il espère l'avoir terminé d'ici le mois de juillet pour que tout soit prêt en 2021. Ça sera quand même le 6e volet et à la base, il devait sortir en 2016.
Le dernier film de Woody Allen en première mondiale, mais en Espagne.
Et oui, ce film se nomme Rifkin's Festival. Il sera projeté le 18 septembre au Festival international du film de Saint-Sébastien. Il a été tourné l'été dernier dans cette ville espagnole près de la frontière basque. Côté casting, Louis Garrel, Elena Ayana, Sergi Lopez. L'œuvre sera projetée en dehors de la compétition officielle du festival.
Et puis l'humoriste Farid s'engage contre le racisme dans la musique.
Oui, pas de sketch, alors totalement inédit. Farid, qui connaît un très très grand succès, il a décidé de se mettre derrière un micro pour la plateforme allemande Colors et de s'engager contre le racisme et les discriminations sociales. Il se lance donc dans une prose avec le titre Faciès. Écoutez.
Arrête, dis la vérité. Je suis né là, mais t'es toujours terrifié. Arrête.
vérité. Tu sais que je suis là, tu fais toujours l'étonné. J'arrête, je dis la vérité. Je fais des blagues, mais en vrai c'est pas l'idée. J'arrête, je dis la vérité. Je le vis mal, s'il faut dire la vérité.
A été choisi par la plateforme musicale. Le but, un micro suspendu, un son, une performance vocale filmée sous quatre angles. Et beaucoup d'artistes sont passés avant lui, comme Angèle, Georgia Smith, Oxmo Puccino ou encore Christine and the Queens.
Et je corrige la petite erreur que j'ai faite, il ne s'engage pas contre le racisme dans la musique, mais il s'engage contre le racisme en musique. Et on termine justement en musique avec un concert de David Bowie.
Donné à Dallas en 1995, disponible en streaming à partir d'aujourd'hui. The cancer is to me. I'm not some piece of teenage wildlife. I'm not some piece of teenage wildlife. Voilà, vous entendez un extrait de ce live Teenage Wildlife, enregistré donc le 13 octobre 1995 lors de sa tournée américaine Outside. Un album live sortira le 3 juillet appelé Ouvrez le chien, avec des titres bonus enregistrés également en 1995 à Birmingham.
Ouvrez le chien en français ?
Ouvrez le chien en français.
Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu Open the Dog.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Michel Bougenat.
Bonjour Michel Bougenat.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous, vous êtes comédien, acteur, metteur en scène. On vous a vu faire des one-man shows, Trois hommes et un couffin, César du meilleur acteur pour le Nombril du Monde en 92 quand même. Et pour la meilleure première œuvre de fiction, c'était Père et Fils, votre premier film avec Noiret et Berling. Mais là, on va parler du festival de Ramatuelle que vous présidez et qui va se tenir cet été. À quelle date et à quel programme? Parce que ça se tient en vrai, en dur.
Alors d'abord, il y a 3 jours de musique classique et après, nous, on commence le 1er août jusqu'au 10 août.
Ouais.
Et je ne suis pas le président, je suis le directeur artistique.
Directeur
parce qu'il y a une
pardon.
Présidente formidable qui est Jacqueline Franjou.
Qui a écrit un livre formidable dont on parlera tout à l'heure.
Exactement. Et je dois dire que Jacqueline Franjou a été absolument incroyable cette année. Parce que depuis le mois de mars, évidemment, on se parlait, on se disait mais Avignon a annulé, tout le monde annule, les grands concerts de musique, de festivals de musique de rock, ça s'annule. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'étais quasi sûr qu'on allait annuler. Mmh. Et elle me dit, non, on n'annule pas. On annulera au dernier moment. Non, on continue à préparer le festival comme s'il ne se passait rien. Et c'est elle qui avait raison. Et je dois dire vraiment qu'il fallait, fallait avoir beaucoup de courage, beaucoup de détermination, d'obstination, parce que moi, je pensais vraiment qu'on allait dans le mur, quoi.
Alors là, justement, on n'y est pas. Ça sera le 4e mur. Quel programme? On ne peut pas tout citer. Quel programme? Ça va de Jarry le 1er août. Le 10 août, c'est Abdal Malik. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Jarry l'humoriste qui fait son spectacle le 1er août. Quoi d'autre, Michel Bougenat?
Il y a Berléand et François-Xavier de Maison qui viennent jouer cette pièce formidable sur le président de la République qui va avoir un psychanalyste.
Par le bout du nez.
Par le bout
Ils
du
étaient
nez.
Venus en parler à ce micro également. Pièce vraiment que je recommande.
Et c'est en plus, encore plus étonnant, c'est qu'ils l'ont joué que 13 ou 14 fois.
Oui.
Puisqu'ils ont été massacrés par le. Donc ils vont évidemment la reprendre. Mais pour nous, c'est formidable. Et il y a la pièce aussi du fils, la deuxième pièce du fils de Jean Poiret. Mm-hmm. Il y a...
Il y a Michel Bougenat.
Oui, je vais jouer avec Charles Berling, inconnu à cette adresse. Il y a à peu près 20 couples qui ont joué ce texte.
Ouais.
Nous, on ne l'a pas finalement beaucoup joué. Il n'a jamais été joué à Ramatuelle. Je trouvais que c'était une occasion formidable. Dans je dirais, j'aime pas trop dire ça, mais dans une région où c'est formidablement important,
ouais,
que la culture existe et que ce genre de choses puisse être dite. Donc je suis très très heureux de le faire. Et en première partie, il y a un groupe de chanteurs très drôles de Marseille qui s'appelle Les Ouvreuses.
Ouais.
En plus, Berling dirige le théâtre Liberté de Toulon. Et tout ce que je peux faire pour rapprocher les lieux culturels de la Méditerranée, enfin de notre Méditerranée ou du sud de la France, à Ramatuelle, pour moi, c'est très important.
Il y a aussi Pierre Palmade.
Oui, il y a Pierre qui vient, je suis très content aussi.
Il y a un projet qui m'a beaucoup étonné.
Il y a l'Opéra Loco aussi.
Ouais.
Vous l'avez vu, ça?
Non.
Mademoiselle l'a vu.
Bon.
C'est formidable.
Mademoiselle, c'est Hélène Manarino.
Et oui, Hélène
c'est comment,
Manarino.
Hélène?
C'est fantastique. C'est complètement barré, c'est complètement fou. C'est de la musique classique sur scène avec des costumes incroyables et ils ont tous des voix de dingue. C'est un super spectacle. Je l'ai vu au Théâtre Antoine à Paris.
Ah ouais, c'est vraiment bien.
Et il y a un projet dont tu avais parlé, Jacques Weber à ce micro, mais que j'ai pas vu, mais qui a l'air complètement dingue. C'est Hugo au bistrot. C'est quoi l'idée ?
Oui. Eh ben, comment dire ? On retrouve Victor Hugo.
Ouais.
C'est comme si on avait Victor Hugo avec nous à côté de nous.
Mais qui est en train de boire des coups, qui sert du.
Mais bien sûr. Et c'est Jacques Weber est un. Il n'est pas seulement grand physiquement, parce que je ne sais pas si vous avez vu ses mains.
Ah mais oui.
Mais il n'a pas des mains, il a des raquettes de tennis.
Ouais.
Mais c'est un immense acteur.
Ouais.
Et j'adore quand il se lance dans ce genre d'opération. Et il avait fait Flaubert.
Mmh.
C'était magnifique. Voilà. Et puis Jacques a dirigé Nice pendant très longtemps,
ouais.
Le Théâtre National, où j'ai créé beaucoup de mes spectacles.
Il faut raconter que c'est parti d'un pari. Il a dit moi je pourrais jouer n'importe où, même au bistrot. Et son pote lui dit chiche, et c'est comme ça qu'il a créé Hugo au bistrot. Là c'est à Ramatuelle, on va parler du lieu parce qu'il est vraiment unique. Je pèse mes mots. Vous restez avec nous, Michel Boujna, Hélène Manarino. Vous connaissez déjà, à plein de choses à vous dire,
oui.
Sur vous-même.
Michel Boujna est notre invité. Dans un instant, on va découvrir votre portrait inattendu dressé par Hélène Manarino sur Europe
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Michel Boujna, Hélène Manarino, dans d'autres conditions. On n'est pas dans le sud, on est en studio. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Michel Boujna.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler des choses que l'on ne connaît pas encore de vous, ou peu. Même si, Mimiche, vous avez déjà raconté beaucoup de choses, mais ouais. Il y a encore quelques secrets, sûrement. Alors j'ai envie de vous parler cuisine, tout d'abord. Votre passion Bambolini, ces beignets tunisiens trempés dans le sucre. Le vendeur de beignets passait devant chez vous quand vous étiez petit. C'était le rendez-vous à ne pas manquer. Alors, passion Bambolini, certes, mais aussi poulet au petit pois, couscous, sandwich tunisien, les pâtes, mais les fameuses pâtes aux boulettes. Et récemment, vous vous êtes mis à cuisiner pour reproduire les gâteaux de votre maman, notamment les navettes tunisiennes.
Ouais. Exactement.
C'est vrai.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. À tel point que j'en ai tellement mangé,
ouais,
que mon frère qui est médecin m'a fait faire des analyses de sang. Il m'a dit arrête. Arrête de manger du sucre, arrête. Arrête, t'es fou.
Ah, c'était pas les boulettes.
Non, 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 c'est les gâteaux de ma mère. Non, c'est une catastrophe.
Alors, le matin, jamais sans votre café et parfois un peu de saucisson. C'est vrai, mais on ne juge pas.
Oui, je sais, ça va choquer. Ouais. Ça va choquer le grand rabbin. Hein.
Je n'ai pas pensé à ça.
Mais
non plus.
Mais on a un contact direct avec.
Mais attendez, mais en dehors
moi,
de ça.
Moi, j'ai une ligne directe avec le bon Dieu.
Non, mais c'est pas ça, mais le saucisson à l'aube.
Bah, c'est très bien.
Rabbin ou pas rabbin, c'est un goût de.
Mais parce que je vais vous expliquer. Quand je suis arrivé en France, j'habitais Bagneux. Et j'ai eu la chance formidable de rentrer à l'école alsacienne à Paris.
Mmh.
Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie. Mais pour aller de Bagneux à Port-Royal à l'époque, avant d'avoir enfin un Solex que j'ai acheté en travaillant dans une crêperie en Bretagne qui s'appelait...
Racontez pas tout parce qu'on a encore plein d'anecdotes.
Ah d'accord,
hein.
Ok. Il fallait 2 heures. Et le matin, et j'habitais au-dessus d'un café.
Oui, mais pourquoi du sauciflard le matin?
Le matin, le mec, il me servait, il me disait, prends ça, un chocolat chaud avec un sandwich au saucisson, beurre cornichon. Et j'ai pris l'habitude de manger ça et ça ne m'a jamais quitté.
Hélène. Je comprends. Alors évidemment, vous avez connu d'autres aventures culinaires comme ce jour. Alors lorsque vos enfants étaient petits, vous avez décidé de les emmener en tournée avec vous en camping-car. Sauf que vous n'aviez pas calculé la hauteur du toit de ce camping-car et vous êtes passé au péage. Et cette barre a donc décapsulé
non.
le toit. Vous êtes resté
c'est vrai.
Bloqué. Et vous avez mangé une pizza avec vos enfants sur une zone industrielle et votre fils vous a dit cette fameuse phrase « Papa, on est au top ». Et c'est vrai que vous êtes au top, vous ne vous énervez presque jamais au volant. Et vous êtes surtout au top quand vous êtes chez Leroy Merlin ou un magasin de bricolage. Michel Boujna, vous achetez des meubles, des marteaux, des tournevis, sauf que vous n'arrivez jamais à monter vos meubles. Et là, vous pouvez vous énerver, en revanche.
Vous confirmez ?
Oh oui. Oh oui. J'ai des copains à Saint-Paul-de-Vence qui me disent toujours « T'as acheté un truc ? Touche pas. Touche pas. » Mais j'adore. Moi, rentrer dans les magasins de bricolage, c'est vraiment rentrer dans un univers.
Mmh.
C'est surréaliste pour moi. J'ai envie de tout acheter. Des trucs que je ne sais même pas à quoi ça sert. C'est tellement beau.
Oui,
et j'ai tellement d'admiration pour les gens qui savent s'en servir. Vous savez, moi, les gens que j'admire le plus,
dites,
c'est les compagnons.
Ah oui.
Quand j'étais gosse à la
télé,
attendez,
vous n'allez pas comparer le compagnon qui refait Notre-Dame avec le gars qui monte une armoire Ikea.
Non, pas du tout. Mais j'ai toujours été fasciné par ces métiers-là. Je trouve que c'est des métiers magnifiques. Voilà. Mais attends, vous rigolez, pour monter un tabouret Ikea, une fois j'ai mis une journée. Il y avait deux vies, j'étais acheté perceuse. Ma fille, elle était allongée sur le lit. Elle mourait de rire. Et vous savez quoi? Je l'ai monté à l'envers. Je vous jure que c'est vrai.
Ça peut faire mal. Hein.
Mais moi, je peux arrêter mon portrait maintenant. Je n'ai pas mieux comme anecdote. Ouais. Alors, comme tout homme, vous plaignez parfois d'avoir mal partout. Mais votre côté top, c'est quand vous êtes à bord, évidemment, de votre bateau.
Oh, mon bateau!
Même si, en vous garant il y a quelques années, vous êtes rentré dans un autre bateau, ça arrive. Alors la mer, la pêche dans votre Méditerranée, cela vous détend. Sportif aussi, on le sait, vous avez été classé au tennis, mais c'était une évidence que ce métier de comédien surtout allait devenir votre vie, grâce, on le sait aussi, à votre professeur de français à l'école alsacienne. Mais un événement avant à l'école vous a beaucoup marqué. Lors d'un devoir de français sur la guerre 39-45, vous avez décidé de rédiger une dissertation sur ces parachutistes qui ont sauté en France et qui sont restés accrochés au sommet d'une église. Votre professeur vous avait disputé en vous disant que tout cela était faux et ça vous a beaucoup, beaucoup touché. Mais Michel Bougenat, vous avez toujours été très sérieux en classe, moins sérieux aussi avec les filles. Vous avez d'ailleurs déjà piqué l'une des petites amies de votre frère. Passionné par
les dossiers qui sortent.
Les jeunes chanteurs français qui chantent bien. Alors, vous aimez écouter de la musique triste, mettre de la musique triste à la fin de vos spectacles, par exemple, mais surtout addict aux séries comme Les Sopranos. Et il y a aussi votre côté joueur, le poker en ligne avant de monter sur scène, mais joueur avant tout pour rêver lors de votre trajet en voiture avec celui qui était votre meilleur compagnon, Charlie Marouani. Vous jouiez au loto et vous passiez une partie du voyage à imaginer ce que vous feriez avec cet argent en disant
c'est drôle.
Je lui donne tant lui car je l'aime bien, lui non, je lui donnerai rien car je l'aime pas.
On était arrivé au théâtre où on allait quand on était en voiture. On avait tellement imaginé qu'on avait gagné et ce qu'on faisait qu'on était sûr de l'avoir gagné, le loto.
Et après, vous claquiez, vous flambiez comme des princes.
C'était incroyable le pouvoir imaginaire sur cette histoire. C'est drôle. On l'a fait pendant... Il me manque terriblement, terriblement. Je trouve qu'on n'a pas assez rendu hommage à cet homme.
C'est vrai.
Parce que c'est un grand, grand monsieur de ce métier. Grand monsieur.
Alors, c'était avec lui votre façon d'imaginer une vie meilleure, votre vie encore plus rêvée, comme le titre de votre spectacle. Le meilleur, évidemment, vos enfants. L'une artiste peintre, lui dans une école pour devenir chef opérateur. Votre fille que vous avez nommée longtemps mention bien après son bac. Alors, Michel Bougenat, quand vous aimez bien quelqu'un, vous l'appelez Mon Poussin. Et finalement, chez Culture Média, on a envie de vous dire Michel Bougenat, Mon Poussin, t'es au top.
Bravo, merci.
Merci.
C'est vous, ça, non?
Oui, oui.
Et la petite amie, elle s'appelait comment?
Mais alors, ça, c'est un moment où... Mademoiselle a dû fumer quelque chose.
Non, elle a
été renseignée par quelqu'un qui lui avait fumé.
Non, c'est pas vrai.
Il y a quelqu'un qui a fumé. Je ne dirai jamais rien. Vous êtes fous, je tiens trop à ma tête.
Merci Hélène, à lundi.
À lundi, bon week-end.
Merci.
Michel Bougenat est notre invité avec lui. Dans un instant, on découvrira nos indispensables. On va parler du livre Les âmes frères de Fabrice Tassel et d'un nouveau label de comics. On se retrouve juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
C'est l'heure de nos indispensables. Dans un instant, on va parler comics avec Clément Le Saffre. Mais avant, on revient à notre invité Michel Bougenat pour parler du Festival de Ramatuelle qui sera bien présent cet été malgré la crise sanitaire et dont il est le directeur artistique.
Dans quelles conditions Michel Bougenat va se tenir le festival? Un siège sur deux occupé, comment ça va se passer? Je précise que le théâtre de Ramatuelle est en plein air. Donc
absolument.
Ça change les conditions.
Absolument. Mais bon... Enfin, il est évident que le virus est en train de partir.
Ouais.
Parce que...
Enfin, je dis oui, j'en sais rien du tout. Moi, je suis pas compétent, pardon.
S'il n'était pas en train de partir, la vérité, moi, encore hier soir, je suis passé aux Invalides. Mm-hmm. Théoriquement, il y a 200 000 morts ce matin. Faut pas déconner. Je veux dire, tout le monde était les uns sur les autres. Il y en avait, mais ils étaient, je sais pas, 2000, 3000, 4000. Ouais. Donc...
Non, mais que vous dit la préfecture?
Nous, on respecte évidemment les indications de la préfecture. Pour l'instant, on est dans une configuration à 700 places sur 1000. Mmh. L'histoire de 1 mètre entre chaque spectateur, c'est absurde. Si on fait ça, je vais vous donner une image. Si on fait ça, par exemple, au théâtre du Châtelet, il ne reste plus que 300 places.
Bah oui, mais ça, on le sait. On en a parlé justement avec Jean-Marc Dumontet. Il y a des choses absurdes,
possible.
C'est ça la sensée.
C'est pas possible.
Ouais.
Non, moi je pense qu'on va. Écoutez, on est au mois de juin, fin juin.
Ouais.
C'est dans un mois. Mmh. OK? À mon avis, on sera. J'espère, et que ça sera un signe très fort.
Ouais.
Ça sera un signe très fort pour tous nos camarades. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Les gens qui font ce métier... Alors évidemment, ils ont fait beaucoup de choses pour les intermittents et tout. Mais il y a plein de troupes dont on ne parle pas. Les troupes de marionnettes, les troupes pour enfants, les troupes en province et tout ça. c'est dingue ce qui s'est passé. C'est dingue de plus pouvoir travailler quand on fait ce métier. Pour tout le monde, c'est dingue.
Mais on a sacrifié l'économie au profit de la santé. Mais qu'aurait-on dit si on avait fait l'inverse? Si on avait sacrifié la santé au profit de l'économie? Juste un mot après le festival. Vous avez le projet de faire un mini festival de cinéma en drive-in. C'est bien ça?
C'est l'idée, elle est venue pendant le Covid.
Ouais.
C'est-à-dire
mais
que
vous allez le maintenir
on
alors
s'est
ce
dit,
cinéma?
Ils seraient dans leur voiture.
Ouais.
Ils seraient dans leur voiture. S'ils sont dans leur voiture, et ben il y a pas de contamination possible.
Ouais.
En fait, ils sont confinés dans leur bagnole.
Ça,
et
j'ai
nous,
bien compris. Mais vous allez le faire alors ?
Oui, je pense qu'on va le faire quand même.
Ouais.
Et en plus, c'est un truc d'enfance, quoi. Le cinéma en plein air,
bien
comme
sûr.
Ça, c'est un grand kiff quand même.
Surtout si on a une décapotable. Vous êtes fan de comics ?
Oui, j'aime bien les comics.
Clément Le Saffre à côté de vous. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous avez vu cet enchaînement, vous êtes arrivé les bras chargés de livres, des comics pour être précis, donc on va parler de super-héros.
Exactement, j'en ai toute une tripotée à vous présenter aujourd'hui. Alors si je vous dis Catwoman, Wonder Woman, Supergirl et Harley Quinn, a priori vous avez une petite idée de qui je parle. Ce sont toutes les quatre des héroïnes plutôt importantes de l'écurie DC Comics, voire majeures. Elles évoluent pour certaines aux côtés de Batman ou de Superman depuis des dizaines d'années. Sauf que eh bien, vous ne les avez jamais vues ni lues. Comme ça, et pour cause, Urban Comics, qui édite donc tout le catalogue DC en France, a créé récemment un nouveau label, qui s'appelle Urban Link. Ce sont des romans graphiques, donc des histoires qui se suffisent à elles-mêmes. Mmh. Et la cible change aussi, ils sont destinés aux ados et notamment les jeunes femmes.
Et ça change quoi que ce soit écrit pour les ados ?
Déjà, les héros sont tous rajeunis, on peut le voir sur les couvertures, hein, par exemple sur celle-là, je prends celle de Raven, je vais la montrer à Michel Bougenat.
Mais oubliez que quoi, que Catwoman, elle a encore un peu d'acné ?
Oui, on en est là, on en est là exactement. Ce ne sont pas les justiciers en costume qui luttent contre le crime à la nuit tombée, Catwoman, elle est au lycée, elle s'appelle encore Selina Kyle, idem pour Harley Quinn, c'est tout juste une jeune fille rebelle qui se cherche, idem pour Bruce Wayne, hein, un futur Batman, lui il est présenté à l'âge de 18 ans, plus vraiment un enfant, mais pas encore un super-héros, alors forcément les récits ne sont pas ceux des comics traditionnels. Il y a moins d'action. Le récit est centré sur les personnages et leurs petits soucis du quotidien, la famille, les amis, les amours, etc. Ça emprunte beaucoup au code, vous savez, des romans young adultes, hein, pour citer les plus connus, Harry Potter et Hunger Games.
Mais est-ce que super-héros et ados, ça va ensemble? Autrement dit, est-ce que ça fait de bonnes histoires, pour dire les choses?
Justement, moi j'avais un peu peur, hein, en les lisant ces livres, de tomber dans les travers de récits un peu simplistes ou un peu clichés sur les ados. Mais j'ai été très surpris, alors même que je ne suis pas vraiment la cible, hein. Il faut le dire, ça aborde des thématiques très ancrées dans la réalité. Par exemple, Catwoman fuit sa maison parce que son père l'a bat. Harley Quinn, elle, se retrouve seule, abandonnée dans la rue et elle est recueillie par une troupe de drag queens. L'idée, c'est vraiment de parler en fait aux jeunes lecteurs. Écoutez, François Hercouet, c'est le directeur éditorial de la collection Urban Link.
On a vraiment voulu dissocier cette production du reste de notre catalogue, qui est plus axé comics de super-héros et aussi de l'indé. On tourne beaucoup autour de l'autonomie quand même des personnages, des héroïnes ici. On est vraiment sur une notion d'accompagnement, d'apporter peut-être des éléments de réponse à des questions sociétales, à des questions parfois politiques, écologiques. Donc tous ces questionnements qui, encore une fois, ne font pas partie forcément, ou en tout cas n'occupent pas le premier plan des comics de notre catalogue général.
Et donc tout ce que nous dit François Hercouet, c'est pas juste du blabla, on le voit vraiment dans les pages, il y est question, et pas juste en surface, hein, de sujets de société comme l'écologie, la place des personnes LGBTQ ou encore la précarisation et l'exclusion des minorités.
Mais il faut quand même aimer les super-héros pour lire ça.
Non, pas forcément. Moi ça m'a plu parce que j'ai découvert évidemment sous un nouveau jour des personnages très classiques, hein, Catwoman. Moi j'aime beaucoup ces récits et là j'en ai découvert d'autres. Mais ça peut aussi être une bonne idée de cadeau pour vos ados qui n'y connaissent rien, simplement car ce sont des histoires intéressantes, bien écrites, avec de bons personnages et au passage bien dessinées aussi, ça ne gâche rien. On en parlait avec Michel Bougenat. Le graphisme n'est pas celui des comics traditionnels, hein, c'est pas aussi fouillé, aussi pointu. On est plus proche effectivement des mangas qui sont plus dans l'air du temps aujourd'hui. Et en fait, que l'on aime ou pas, les super-héros, c'est une vraie bouffée d'air frais d'avoir ces récits. Et quelque part, ça a aussi à voir avec le fait que quasiment tous ces romans graphiques ont été écrits par des femmes, des romancières qui plus est, hein, pas des scénaristes de comics. Elles ne sont pas légion dans le monde des super-héros, alors forcément, leur vision est assez rafraîchissante.
Et mais j'ai complètement envie de vous demander, est-ce que les super-héros ados ont déjà des super-pouvoirs ?
Alors, ils commencent à en avoir, mais effectivement, par exemple, Catwoman, c'est pas vraiment un super-pouvoir qu'elle a, c'est un peu comme Batman, elle peut grimper parce qu'elle escalade très bien les murs.
Voilà, c'est un peu comme les petits poils au menton quand on a 14 ans. Et ça, c'est la première reco, et vous avez une autre recommandation radicalement différente, Clément.
Ouais, là, on va changer complètement de style avec un comics beaucoup plus traditionnel, ça s'appelle Arlene, c'est un récit beaucoup plus sombre, plus mature, centré sur une héroïne dont je viens de vous parler, justement, Harley Quinn, personnage culte de DC Comics, connu pour son costume d'arlequin, noir et rouge, emblématique, et pour être la copine du Joker, le clown psychopathe qui terrorise Gotham. Vous allez me dire, pour être amoureuse d'un tueur fou, il faut être soi-même sacrément jeté. Eh bien, c'est justement tout le propos de ce comics. En partant de la première rencontre d'Harley Quinn avec le Joker, l'auteur Stiepan Cheik nous propose une plongée très progressive dans la folie.
Vraiment, en deux mots, parce que je rentends Michel Boujna, ça raconte quoi en deux mots?
Bah, c'est l'histoire d'Arlene Quinzel, c'est une psychiatre ambitieuse, fascinée par les criminels. Elle va faire des recherches à l'asile d'Arkham, où elle va donc rencontrer le Joker. C'est une histoire en fait à l'eau de rose qui tourne mal, si on peut dire, le miroir de tous les contes Disney, une histoire dans laquelle la gentille n'arrive pas à sauver le méchant. Le Joker ici, c'est une rockstar hyper charismatique, elle se fait embobiner par lui, et ça raconte très bien cette relation assez toxique qui naît. C'est vraiment, je vous le recommande chaudement, parce que c'est très très bien écrit.
Merci beaucoup, et Michel Boujna est déjà plongé dans les albums.
Ouais, vous restez beau, avec nous, c'est Michel. C'est vachement beau.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Michel Boujna qui est notre invité ce matin. On va revenir à son actualité dans un instant, mais avant, on parle d'un livre qui n'est pas un polar avec Bernard Poirette, Philippe.
Bernard Poirette, bonjour.
Salut, ça va ?
Vous arrivez avec Les âmes frères de Fabrice Tassel, chez Stock.
Oui.
Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi ça vous a séduit ?
Pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'histoire de deux frères. Moi, j'aime bien les histoires de famille. Et celle-là, elle est croquignolette, je vous le garantis. Ces deux frères qui s'adorent, ils ont très peu d'écart. Hein. Moins de 2 ans, Julien et Loïs. Il y en a un qui est statisticien extrêmement doué chez un assureur. Il essaye de savoir pourquoi les gens ont des accidents et comment on peut éviter de les rembourser, en clair. Et puis, il y a Loïs, son frère, qui est archéologue. C'est le plus brillant des deux, c'est le plus visible, c'est le plus extraverti. C'est un flambeur. Il aime les femmes, il aime la picole, il aime craquer son argent, etc. etc. Et puis, un jour, Julien disparaît. Julien disparaît de son entreprise, il dit rien à personne, hop, il disparaît, il laisse son appartement impeccablement rangé, comme s'il allait revenir dans 5 minutes. Il disparaît et il envoie des courriers de l'autre bout du monde à son frère, Loïs. Et il tisse ainsi un chemin de petits cailloux pour essayer que son frère le retrouve. Parce qu'entre eux, il y a un mystère, il y a un non-dit monstrueux depuis le début. Et un jour, pour Julien, ça a été insupportable. Donc, il a pris la fuite, il s'est enfui. Mais il veut renouer avec ce frère, Loïs. Et donc, il lui donne des traces pour essayer de le retrouver. Et puis, il y a un troisième personnage absolument fascinant qui s'appelle Monsieur O, qui est un milliardaire chinois qui est en train de mourir du cancer. Et pour mourir, il a choisi de se reclure dans une chambre forte du port franc à Genève. Connaissez-vous les ports francs de Genève ?
Non.
Ce sont des espèces de sites souterrains dans lesquels les milliardaires du monde entassent leurs merveilles. Et de temps en temps, ils viennent les voir avec des gardes armés, etc. Ils ont des codes à combinaison, etc. Et Monsieur O habite dans une de ces chambres fortes. Et c'est lui qui tire toutes les ficelles de cette histoire absolument fabuleuse qui est à deux niveaux. Une histoire de famille entre deux frangins qui essayent de se retrouver parce qu'ils s'adorent, mais qui ne se supportent pas. Et puis, une histoire presque criminelle, donc vous n'aviez pas complètement tort en disant que c'est un polar. Ce n'est pas vraiment un polar. Et Monsieur O, derrière, qui tire les ficelles d'une machination dont je ne vous dis rien. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le fond de ce livre de Fabrice Tassel se retrouve dans l'actualité des derniers jours. Vous avez vu ce trafic d'œuvres d'art avec le Proche-Orient.
Oui.
5 personnes ici, dont un ancien du Louvre, un commissaire priseur et tout, qui ont été interpellés par la brigade chargée de la répression du trafic des œuvres d'art. Et bien, il y a ça aussi, parce que Loïs, pour alimenter la flambe et son amour de la vie, appelons-le comme ça, ben, il est prêt à quelques compromissions avec la déontologie des archéologues. C'est un bouquin fascinant, remarquablement écrit. Et alors, pour qui aime les histoires de frangins et de famille, c'est vraiment, vraiment à recommander. Vraiment, vous allez passer un bon moment avec Les âmes frères de Fabrice Tassel. Ça vient de sortir chez Stock il y a quelques semaines en plein confinement. Et donc, je pense que c'est bien qu'on lui mette un petit coup de booster.
Ça vous a séduit, Michel Boujna ?
Bah oui, vous auriez pu amener le bouquin, je vous l'aurais tiré.
je peux aller le chercher, il est à mon bureau. Ouais. Oh, bah, il va
c'est
me
ça,
il
les
va
joueurs voler du
mon livre. Hein.
Qu'est-ce
mais
que
non,
vous lisez
l'acheter,
vous êtes un grand lecteur, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Michel Boujna ?
Alors, je lis Laurent Godet, que j'ai découvert il n'y a
le
pas longtemps.
Le soleil des Scorta.
C'est une merveille de merveilles. Salinas aussi. Alors Salinas, c'est une histoire incroyable quand même. C'est l'histoire d'un bébé déposé par un cavalier dans un village d'un pays qu'on imagine être l'Afrique.
Ouais.
Ou un pays comme ça. C'est très imaginaire et en même temps, c'est une beauté. Et ce bébé, c'est une petite fille. Et c'est l'histoire de cette petite fille et des enfants qu'elle va avoir. Mais c'est d'une force. C'est un écrivain monumental pour moi.
C'est un prosateur de génie, Godet. Je me souviens, comme ça de mémoire, de la première page du Soleil des Scorta. Il décrit une mule qui monte un chemin pierreux en Sicile ou en Sardaigne, je ne sais plus où.
Dans les pouilles.
Sous un cagnard d'acier. Et c'est incroyable. C'est une, oui. Ce sont des phrases magnifiques.
Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vraiment. Ah, c'est... Et il y a un autre livre que je n'arrête pas de relire en ce moment parce qu'il me fascine complètement. C'est un livre de Paul Auster qui s'appelle Monsieur Vertigo.
C'est très très bien. Ça aussi.
Qui est l'histoire d'un garçon qui apprend à voler.
Ça sera
pas à voler des portefeuilles, à voler.
Ils sont pas tous bons les Auster, mais celui-là est très très.
Ah
bon.
Non, celui-là c'est un grand roman très, populaire. Très bon.
Les gars, le trio d'aujourd'hui, Fabrice Tassel, Laurent Godet, Paul Auster. Merci beaucoup Bernard Poiret.
Mais je vous en
et
prie.
Bon vent, c'était notre dernière ensemble.
Mais
bon vent.
Absolument, bon absolument.
Suite.
Bonne fin de saison.
La dernière partie de l'émission, c'est dans un instant avec notre invité Michel Bougenat sur Europe 1.
Philippe Bondel.
Suite et fin de Culture Média avec notre invité Michel Bougenat, qui est le directeur artistique du Festival de Ramatuelle, dont la 36e édition aura bien lieu du 28 juillet au 10 août.
Ramatuelle, un théâtre sous les étoiles, c'est signé Jacqueline Franjou, c'est ce qu'on appelle un beau livre avec des photos absolument magnifiques, c'est au Cherche Midi. Le festival aura bien lieu en réel, pas en numérique, mais en réel.
En vrai.
Malgré, en dépit de la crise du coronavirus. Et vous-même,
on lutte, ouais. On se bat, il faut continuer à vivre.
Et vous-même, vous avez lutté, vous avez été atteint par le coronavirus.
Oui, j'ai été atteint.
Ouais. Comment c'était? Parce que pour certains, c'était une grippette, d'autres ont
moi,
eu très peur.
Moi, c'était une grosse...
Charlie Lécouture, qui était ici, nous a dit, il n'a pas vu la mort en face, mais quand même, il a vu la mort de trois quarts. Et pour vous, c'était comment?
Ah non, mais moi, là, c'était très bizarre, parce que j'étais très mal. Ouais. Bon, mais bon, j'ai une grande résistance à la douleur. Non, ce qui était très inquiétant, c'était deux choses. Un, le décompte des morts à la télé tous les jours. J'en pouvais plus à la fin, j'ai coupé la télé, j'ai arraché les fils.
Il fallait pas le faire?
Mais non, mais tous les jours, mais je sais pas, mais moi tous les jours, quand t'as la maladie, mais que tous les jours t'entends, aujourd'hui il y a eu tant de morts, le lendemain c'est toi. Ils vont dire, ah il y a un de plus, c'est lui, il est mort. Bon, et en plus, moi j'avais un pneumologue au téléphone, une femme très gentille, qui m'appelait deux fois par jour pour savoir où j'en étais. Et je savais qu'à un moment donné, elle pouvait me dire « Bon, j'envoie l'ambulance, on vous met à l'hôpital. » Et je ne savais pas. Donc, c'est un film d'Hitchcock, ce truc. Jusqu'au moment où on commence à aller mieux, à récupérer, voilà.
Et vous avez une phrase très drôle que j'ai repérée sur la télé israélienne I24 News. Vous avez dit « Je meurs d'envie d'avoir faim. »
Mais oui, j'en pouvais plus, j'ai perdu 6 kilos, c'est, pour moi c'est un sacrilège.
Non mais d'habitude on râle quand on les prend les 6 kilos.
Oui mais non, mais je m'en fous moi ce que j'aime c'est manger, c'est vivre, on n'a plus aucun, et je vais être très clair, bien qu'on soit à 11h du matin, ou à midi, ou je sais plus qui, on n'a plus aucun désir, ok? Quand j'ai dit je meurs d'avoir envie de manger, c'était pas seulement manger, j'avais envie d'avoir envie, voilà, mais bon, ça y est, c'est fini maintenant.
Vos projets, le Festival de Ramatuelle, dont vous êtes le directeur artistique, vous êtes monté sur scène, et quoi d'autre à la rentrée? Il y a plein de choses, il y a un nouveau spectacle.
Alors d'abord, je vais jouer une pièce de théâtre au Théâtre des Variétés, qui s'appelle Drôle de genre, qui est très dans l'air du temps, puisque c'est l'histoire d'un type qui rentre chez lui, et sa femme, elle lui dit, en gros, avec qui il est marié depuis un bout de temps, vraiment un bout de temps, elle lui dit qu'elle a un cancer de la prostate.
Elle lui dit.
Oui. Et il découvre après beaucoup d'années de mariage qu'avant de le rencontrer, elle était un homme.
Ouais.
Et c'est à la fois très drôle et très bouleversant parce que il s'aime, mais est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va la regarder pareil?
Pardon de la question, vous faites l'homme ou la femme?
Les deux. Non. non, je fais l'homme.
Ouais. Et le One Man Show.
Je crée mon prochain spectacle tout seul au mois de février.
Ouais.
Et ça s'appelle Dans tous les sens. Je suis en train de l'écrire aussi.
Ouais.
Et puis je travaille sur mon prochain film qui est l'histoire d'un garçon. Enfin non, l'histoire d'un père qui est obligé de mentir pour sauver son fils.
Et si je suis bien informé, vous n'avez pas un rendez-vous à l'Élysée en plus?
Oui, exactement.
Vous allez faire quoi?
Rien, on m'a demandé de rencontrer conseil culturel. Moi, si on me demande de rencontrer des gens qui s'occupent de culture et qu'on me demande de dire ce que je pense, voilà, je refuse pas, parce que si on peut être utile et si on peut apporter des choses, et ben on le fait. Mais...
Et vous allez faire valoir votre point de vue, notamment sur les festivals. Merci beaucoup Michel Bougenat. Ramatuelle, le festival, c'est du 1er au 10 août. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média avec Hugo Clément pour son émission sur le front des animaux menacés. Et puis le journaliste Franz-Olivier Gisbert pour un livre absolument savoureux. Salut Céline Dacosta.
Salut,
c'est
Céline
votre dernière
Bandel.
Aujourd'hui avec nous.
Tout à fait.
Juste pour dire que j'étais ravi d'avoir passé cette année avec vous.
Mais
c'était un régal et un plaisir. Merci beaucoup et je dis à toutes et tous à lundi.